Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Moi, je ne pouvais pas vous parler parce que Christian Rekia me faisait la bise. Et ça dure un quart d'heure. Donc, c'est ça le problème. Merci d'être là. 7h30, c'est RMC. Christian Rekia vient d'arriver. Et on va le retrouver pour notre rendez-vous Forme Santé dans une demi-heure. Christian PC.
François
Sorel. Vous ne me faites pas la bise comme Christian Rekia.
Non,
et je suis un tantinet jaloux.
Oui, j'ai remarqué.
Il va falloir quand même régler ce petit problème. Tout à l'heure, votre coup de gueule, on va parler d'une éventuelle augmentation des taxes foncières et ça vous met hors de vous.
Oui, ça a commencé déjà dans certaines régions.
Mais auparavant, notre dossier de ce samedi matin, et d'ailleurs on vous invite à réagir, à poser vos questions sur la peinture, puisqu'on va maintenant vous proposer un spécial peinture. Comment bien la choisir ?
Oui, comment bien la choisir et puis aussi comment bien l'appliquer, parce que c'est vrai que la choisir, c'est pas toujours simple lorsqu'on est devant un rayon de supermarché de bricolage. Il y en a beaucoup et en fin de compte, souvent, on choisit en fonction de la couleur, mais pas en fonction de ce qu'on va en faire. Et puis, on va voir aussi les problèmes liés à la santé. Christian Rekia n'est pas loin, parce qu'il y a maintenant des peintures qui sont... De toute façon, globalement, la nocivité a reculé, parce qu'elle était quand même, c'était pas mal. Hein, le sol vanté avant, on en prenait quand même plein les narines. Maintenant,
plusieurs années.
Mais il y a aussi maintenant des peintures, véritablement, qui sont dépolluantes, qui sont insecticides, qui sont même bactéricides. On verra ça avec un présentant de chez ONIP.
Des peintures dépolluantes, voilà. C'est ça, voilà. En quelque sorte.
Oui, bien sûr. Qui cassent les formaldéhydes. Donc, ça existe pour les plaques de plâtre, ça existe pour maintenant pas mal de produits. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est avec Sophie Beghelli. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour. Vous êtes responsable de secteur chez Rustoleum.
Tout à fait.
Qui est une marque qui produit à la fois des peintures techniques et des peintures décoratives, on peut dire. Rustoleum, c'est pas la plus... je ne vous fais pas d'injure en disant que c'est pas la plus connue des marques de peinture. Quelle est l'origine de Rustoleum ?
Alors, l'origine de Rustoleum est une marque anglaise.
Oui.
On est connu au départ pour notre peinture anti-rouille universelle, qui est aussi en... Alors, l'universal est en gamme grand public, mais qui est aussi connu pour notre gamme pro. Depuis quelques années, on développe une gamme consumer pour les grands magasins de bricolage.
D'accord. Alors, le grand débat depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement le passage des peintures solvantées globalement qu'on appelait les peintures à l'huile, aux peintures dites en phase aqueuse. C'est plus noble en phase aqueuse que peinture à l'eau, mais est-ce que véritablement aujourd'hui on a des peintures à l'eau, des peintures en phase aqueuse qui sont aussi performantes que l'étaient les peintures solvantées?
Aussi performante. L'avantage d'une phase aqueuse, c'est qu'elle est à l'eau, donc on nettoie ses outils à l'eau. C'est plus facile à étaler. Ouais. Et puis, il y a le même rendu, le même fini.
C'est quand même plus difficile d'avoir une vraie laque en phase aqueuse que lorsqu'on était en phase solvantée.
C'est une question de préparation. Tout est dans la préparation en peinture.
Oui.
Faut bien préparer ses fonds. Une peinture en phase aqueuse, il va peut-être falloir, suivant votre support, si vous avez un support poreux, style Béatrice, ce genre de choses.
Béatrice, c'est plaque de plâtre.
Voilà. Une sous-couche. Sinon, si vous avez déjà une peinture en phase aqueuse de mise, vous nettoyez votre mur et vous faites votre peinture traditionnelle.
Alors justement, vous m'amenez sur un terrain là, que je n'avais pas forcément prévu, qui est celui, dans mes questions, mais qui est celui de la plaque de plâtre. J'avais une question il n'y a pas encore très longtemps, de quelqu'un qui me disait, mais alors est-ce qu'il faut enduire la plaque de plâtre ou est-ce que ça suffit aujourd'hui de prendre une plaque dite à peindre et de mettre par exemple deux couches? Est-ce qu'il faut mettre un primaire? Quelle est votre préconisation là-dessus? Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça aujourd'hui.
Tout à fait. Il y a plusieurs cas de figure. Si ça va être une peinture qui va aller dans une pièce humide. Effectivement, on va mettre une sous-couche, enduire, mettre une sous-couche et deux couches de peinture.
D'accord.
Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour faire les choses dans les règles de l'art, comme l'on dit.
D'accord.
Nous avons Isabelle au 32-16, messieurs, dames. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Bienvenue, Isabelle.
Isabelle, vous nous appelez de quel endroit ?
Ah, je suis en Bretagne.
En Bretagne.
Entre Rennes et Redon.
Parfait. D'accord. Et on vous écoute attentivement, Isabelle.
Voilà. En fait, j'ai vu partout de la publicité pour des nouveaux rouleaux pour la peinture avec un réservoir intégré, une espèce de mousse.
Oui.
Et je voulais savoir si c'était vraiment efficace par rapport à un rouleau traditionnel, si le résultat était satisfaisant.
Ah, c'est les trucs qu'on voit au téléachat, là.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Ah bon. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je ne veux pas être méchant.
Après, vous allez nous donner votre avis.
Tout dépend ce qu'on a à faire comme peinture. Vous avez un petit meuble en bois ou que sais-je, enfin un petit support. Oui, vous pouvez y aller. Faire toute une pièce comme ça, je ne conseille pas trop.
Ben, moi, je pense que... Moi, je dirais que... Alors, attention, il faut toujours être très prudent dans tout ce qu'on voit à la télé, dans les téléachats et ça. Vous avez des gens, ah, c'est fabuleux. Et puis, ils font ça tellement bien. Ensuite, quand ça vous arrive chez vous, c'est un peu plus
délicat. C'est comme les trucs qui projettent la peinture.
C'est pour ça que je demande votre avis, justement.
Voilà. Alors, donc, moi, je pense qu'un bon rouleau adapté à la peinture, et, au fond, et adapté au résultat qu'on veut obtenir, parce que ces rouleaux-là souvent sont assez universels, on va dire, alors que on sait qu'il va falloir pour une laque, on va avoir un rouleau à poil très court, hein, on va dire, pour ce qu'on appelle en mohair, qui est pas du mohair évidemment, mais qui est synthétique, mais qui va permettre d'avoir par exemple un rendu brillant, mais extrêmement intéressant. Moi, je suis pas sûr que ce genre de... Si vous savez, hein, le problème est simple, on ne voit aucun professionnel utiliser ce type de matériel. Donc si c'était plus performant que les matériels classiques, les pros les adopteraient, les prendraient. Et puis, ça coûte aussi bonbon en général. Hein. Voilà ma réponse et notre réponse.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Merci Isabelle.
Sophie, problème de préparation des fonds. Je pense que ça, c'est prioritaire, ce qu'on appelle préparation des fonds, c'est-à-dire la préparation du mur.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reboucher tout ?
Si on a des trous, on les rebouche, parce qu'évidemment, aucune peinture ne cache les trous, d'accord ? Donc, on rebouche les trous, on enduit s'il y a besoin, on fait un enduit de rebouchage, un enduit de lissage, et une sous-couche, et une peinture de finition, bien entendu.
D'accord. La notion de primaire, parce qu'on entend parler de primaire,
C'est la sous-couche.
C'est la sous-couche. Sous-couche et primaire, c'est la même chose.
C'est la même chose.
D'accord.
C'est juste la personne que vous avez en face de vous qui va vous parler de primaire ou de sous-couche.
D'accord. C'est d'une couleur neutre ou c'est de...
En général, c'est blanc.
En général, c'est blanc.
À part si vous faites un mur très gris ou très noir, là, il peut y avoir des sous-couches grises.
D'accord, ça sert à quoi ? Donc, à nourrir le fond, en quelque sorte, à boucher
tout
les pores ?
Tout à fait, à nourrir le fond, à faire que votre support va absorber la peinture primaire et pas la peinture, ce qu'on appelle la peinture secondaire, c'est-à-dire la peinture de finition.
Voilà, la problématique, c'est ça. C'est pas seulement pour rendre le support plus lisse, c'est pour éviter que, notamment l'eau, en l'occurrence, puisqu'on est en phase aqueuse, que l'eau soit absorbée par la maçonnerie.
Tout à fait.
Nous avons Cynthia au 32-16. Place à vos questions, vous le savez en priorité. Cynthia, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, Cynthia.
Et bien, merci.
Vous nous appelez d'où ?
Alors, de Dordogne.
De Dordogne.
Très bien.
Très bien. Vous êtes bien réveillée, tout va bien, ça va ?
Oh oui, j'écoute depuis ce matin, oui, depuis 10
heures. Ben, c'est parfait, c'est très bien. Vous avez bu un petit café aussi, Cynthia, quand même, ou pas ?
Oui. Qu'un petit café.
Allô ?
Oui, vous avez bu un café ? Un petit café ?
Oh non, pas encore.
Pas
non.
Encore.
J'ai un petit bout, oui, il fallait s'en occuper d'abord.
Ah oui, c'est vrai. D'accord. Alors, vous avez une question concernant la peinture de votre salle de bain, je crois.
Oui, voilà. Alors, en fait, on va acquérir une nouvelle maison. Et il y a c'est une douche avec baignoire.
Oui.
Et ils ont mis des carreaux seulement jusqu'à... Enfin, pas jusqu'au mur.
Pas jusqu'au plafond, pardon. Oui.
Voilà. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qu'il fallait mieux. Est-ce qu'il faudrait peindre cette partie-là ? Parce que la douche, il y a un escalier, donc c'est un peu en hauteur. Donc, pour prendre la douche, je pense que ça va faire des projections d'eau. Voilà.
Ah,
donc, quelle peinture faudrait mettre pour continuer jusqu'au plafond ? Et puis, sinon, est-ce qu'il faudrait peut-être remettre des carreaux ou... Comment ça se fait maintenant?
Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'on a souvent cette configuration dans des maisons. On n'a pas voulu carreler, par économie peut-être, jusqu'en haut du mur, donc jusqu'au plafond, voire sur les côtés. Alors, Sophie, est-ce qu'il y a véritablement, dans vos gammes, par exemple, chez Russolium, est-ce qu'il y a véritablement des peintures qu'on peut considérer comme remplissant la même fonction qu'un carrelage au niveau d'une salle de bain?
Alors, dans nos gammes à nous, oui, on a une peinture qui s'appelle l'effet mural poudré, qui peut se mettre au-dessus d'1,50 m.
Et alors, c'est pas une laque, c'est poudré, vous me dites.
C'est un effet mat poudré, oui. Parce que la grande tendance, c'est plus trop les brillants, les laques, c'est plutôt les mats.
Oui, mais techniquement, c'est quand même, si je suis dans une salle de bain, l'eau va ruisseler. Si je suis poudreux, ça va pas me faire.
Non, ça fait, c'est quand on dit poudré, c'est un effet mat, mais doux au toucher.
D'accord. Techniquement, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi une sous-couche.
Pas
forcément.
Non.
Les peintures salle de bain, c'est quoi? C'est du Milan?
Ah non. Elle peut mettre une peinture salle de bain également.
C'est-à-dire, il y a véritablement une caractéristique spécifique aux peintures salle de bain, ou c'est du marketing?
Non, c'est-à-dire que les peintures salle de bain, elles ont peut-être une spécificité supplémentaire du fait que ça protège un petit peu plus de l'humidité.
D'accord. Voilà. C'est le côté hydrofuge. Non? Pas forcément.
L'hydrofuge, c'est plus pour le feu, pour l'humidité. Oui, non. C'est pas hydrofuge, une peinture salle de bain.
D'accord, très bien. Alors, la question, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la nocivité des peintures, l'émission de COV, donc de composants organiques volatiles. Maintenant, c'est réglé. Toutes vos gammes sont justement sans COV ou avec un minimum de COV.
Et pour compléter ce que vous dites, on a Hervé qui nous dit: pourquoi certaines peintures acryliques donnent-elles des maux de tête pendant plusieurs jours? C'est ce qu'il a ressenti chez lui.
Oui.
Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un peu...
Ouais. Bah, on va en parler justement avec notre autre invité, qui est Patrick Verlac.
Ça peut donner mal à la tête, ce type de peinture, ou pas?
Non, c'est plus peut-être parce qu'il a peint avec autre chose à côté, dans une pièce fermée où il faisait chaud. Il y a peut-être plusieurs...
D'accord, oui, plusieurs, oui.
Qui rentrent en ligne de
plusieurs
compte.
Facteurs qui font qu'il a mal à la tête.
D'accord, on prendra Patrick Verlac tout à l'heure.
Exactement, Christian, je ne peux rien vous cacher, c'est terrible. 7h41, spécial peinture ce matin sur RMC dans ce week-end des experts maison. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, on a Xavier aussi qui nous dit: j'ai des murs rouges que j'aimerais repeindre en blanc. Et comment je dois faire?
Plusieurs couches. Un primaire,
12 couches, en fait, nous dit Christian Ekia, qui est médecin peintre. Hein, c'est ça, vous avez sur votre carte de visite médecin peintre, je crois bien. On revient dans un instant. A tout de suite, c'était RMC.
RMC,
jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Pratiquement 8h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts, la maison et la peinture avec Christian Pessé, nos invités ce matin. Tiens, Christian, Rekia s'est immiscé dans notre discussion pendant la pub, oui. Hein, Christian, parce qu'on parlait de l'éventuelle nocivité de la peinture.
Oui, alors justement, il y a une labellisation, on va en parler notamment avec Patrick Verlac dans quelques instants, mais c'est l'étiquetage environnemental avec le A+. Hein.
Tout à fait. À partir du moment où on est fabricant de peinture, il y a des normes européennes via toute la loi Grenelle de l'environnement, et il faut absolument respecter ces règles, aussi bien pour les phases aqueuses que pour les peintures solvantées. Il y a des sigles à mettre, et pour les phases aqueuses, nous chez Rustoleum, on n'a que du A+, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut utiliser nos peintures sans avoir de problème d'allergie, de maux de tête, et encore plus avec notre dernière peinture qui est 100% à l'eau, l'aérosol colère.
Il existe beaucoup de peintures qui ne sont pas encore A+, justement.
Pratiquement, je pense plus qu'on en voit beaucoup sur le marché. En tout cas, on n'a plus de solvanté pour l'intérieur, hein, ça c'est clair. Hein.
Ouais.
On va parler donc avec Patrick Verlac, qui est directeur technique chez Onip. Bonjour, monsieur Verlac.
Bonjour Monsieur Dessé, bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors vous, vous avez une gamme assez large, mais vous avez une spécialité que sont ces peintures, je veux dire justement, très respectueuses de l'environnement, et aussi qui ont une phase active, je dirais. On vous avait eu d'ailleurs il y a quelques années sur ce sujet. Vous avez des peintures, par exemple, dépolluantes. Comment ça marche ?
Oui, alors c'est vrai que nous, notre spécificité à l'ONIP, hein, nous sommes un fabricant français avec des usines en France, une pleine familiale, et en fait, notre ADN, c'est vraiment l'innovation. Effectivement, sur la peinture dépolluante, on a été les premiers en 2013 à lancer toute une gamme qui permettait d'assainir l'air intérieur, et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, spécifiquement le formaldéhyde, de tous les composés qui tournent autour du formaldéhyde.
D'accord, donc ça les casse en quelque sorte, hein, ça casse les molécules, c'est ça ?
Alors ça, c'est exactement, il y a une réaction chimique, c'est d'ailleurs on a fait un brevet là-dessus, parce qu'on était vraiment les premiers à mettre au point cette réaction chimique dans une matrice peinture. On capte les molécules de formaldéhyde dans l'air, présentes dans l'air, et on les détruit réellement, donc il y a une pérennité effectivement du système, voilà. Mais qui est quand même large puisque ça va jusqu'à au-delà de 10 ans, donc il n'y a pas de...
C'est le... Ça marche très bien. Ouais, c'est le même système qui est utilisé dans les plaques de plâtre. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur la question, mais maintenant c'est attesté, c'est prouvé, quoi.
Oui, c'est ça, c'est à peu près le même système. Alors il y a aujourd'hui différentes technologies qui existent, hein, depuis 2013. Soit c'est des additifs, soit c'est des polymères bien spécifiques, ou soit c'est de la photocatalyse également, mais là ça nécessite une énergie lumineuse qui permet de détruire le composé formaldéhyde.
D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez des peintures, alors ça va intéresser Christian Ricca qui est à côté de moi, des peintures bactéricides.
Alors attention au terme bactéricide, oui. Parce qu'on n'est pas là pour... Le terme bactéricide n'est pas forcément très bien
employé.
En fait, on a des peintures aujourd'hui, d'ailleurs dans notre cette gamme de peintures qui s'appelle la Bélonique chez nous, qui dépollue l'air intérieur, a aussi un agent antibactérien. Là, c'est plus le terme qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que lorsque vous posez votre peinture, sur votre mur, il y a toujours des bactéries qui vont se poser, des bactéries classiques, hein, sur nos mains, etc. Et en fait, elles sont autodétruites par cette peinture-là.
D'accord,
donc on a vraiment un assainissement à la fois de l'air intérieur, mais également de la surface du mur.
Christian,
d'une façon générale, quand on peint une pièce, on assainit la pièce sur plan bactérien. Donc c'est toujours bien d'assainir une pièce avec une peinture. Quand on a une peinture à l'eau, les éthers glycols des peintures à l'eau des années 2010-2005 existaient, et ces éthers glycols étaient très bactéricides. Aujourd'hui, il faut voir si ces peintures, avec les nouvelles normes, ont les mêmes capacités bactéricides dans les années, des années 2010. C'est ça, oui, la question qu'il faut poser.
Merci pour ces conseils santé, Christian.
C'est le cas ?
Alors nous, par exemple, on a effectivement des PV, des essais qui sont faits par des tierces parties, des laboratoires, hein, certifiés et reconnus, qui vous montrent qu'on détruit vraiment, réellement, plus de 99,9% des bactéries qui sont présentes dans une pièce classique.
Alors les peintures anti-odeur, parce que moi, oui. Je vais bientôt en mettre, parce que j'ai ma fille qui est un petit peu chez moi en ce moment et qui fume, et ça me... je ne sais pas si elle m'écoute.
Règlement de compte familial sur l'antenne.
Il faut qu'elle arrête de fumer.
Mais Christian, il faut qu'elle rencontre Christian Ricca.
Absolument, tout à fait. Mais alors donc, ces peintures anti-odeur, ça a véritablement une efficacité ?
Ah oui, alors ça, je peux vous le certifier. Et là, je suis assez fier de dire haut et fort que là, ça fait depuis 4 ans maintenant qu'on a lancé une gamme qui s'appelle Clean Odeur. On est les seuls en France. Là aussi, c'est une technologie brevetée qui permet réellement de détruire toutes les mauvaises odeurs. Alors, vous parliez de tabac, c'est exactement ça, comme type d'odeur. Mais vous avez aussi des odeurs d'humidité, d'espèces d'odeurs de moisissure, vous voyez, d'un peu de renfermé, de cuisine. Donc, tout ce qui est...
Et comment ça marche ?
Il y a des odeurs de gras, etc. Ouais, tout ça détruit ces odeurs-là. Et aussi des odeurs de corporelles, par exemple, d'accord. De transpiration, etc.
Ah, d'accord. Alors, on peut se repeindre avec sous les bras, donc, pour éviter de...
je ne sais pas si...
C'est une peinture au Chanel numéro 5.
C'est ça. Je ne sais pas si Patrick va nous conseiller ça.
Ouais.
Parfait, merci beaucoup, Patrick.
Patrick Verlac, vous êtes directeur technique chez ONIP.
C'est étonnant, hein, comme maintenant, il y a des peintures qui font plus que repeindre une pièce.
C'est des peintures de très belle qualité, en plus.
On n'a pas posé la question du prix, mais j'imagine qu'il y a un surcoût pour toutes ces peintures santé.
Bien sûr. De toute façon, la peinture est chère, il faut quand même le savoir. Et la peinture pas chère, c'est forcément de la peinture bas de gamme, c'est forcément... pas dire de la mauvaise peinture, mais il faut être très, très attentif.
Sophie Béguéli, ça coûte combien un litre de peinture?
Écoutez, un pot de 2,5 litres en mat chez nous, dans tous les bons magasins de bricolage qui l'ont, mat sans effet, elle est à 39 euros.
Oui, donc, c'est ça.
Voilà, c'est pas.
Et avec 2 litres et demi, on fait combien de mètres?
On fait 10-12 mètres carrés
en une seule couche. Donc ça veut dire qu'on fait 5 mètres carrés, puisqu'on va remettre deux couches.
Hein, ou en deux couches. Ouais. Ben donc, ou en deux couches, suivant le.
Sophie, excusez-moi, mais 40 euros pour, ou 39 euros pour peindre 4 mètres carrés, on peut pas dire que c'est forcément.
C'est de la peinture mate, couvrante.
Voilà.
On peut faire tout à fait. Une couche et la laisser en une couche.
Oui, bien sûr.
Elle est très épaisse, la nôtre. Hein. Elle est très
Cela dit, vaut mieux mettre un petit peu plus dans le prix et avoir quelque chose de correct, parce que c'est vrai que c'est quelque. Enfin, c'est quand on peint une pièce, c'est ce qu'on voit en premier.
Non, mais moi, je trouve que 39 euros, c'est un bon prix.
Mais c'est vrai que c'est pas donné.
C'est pas donné.
On n'est pas la bas de gamme, on n'est pas la haute gamme, on est entre deux gammes.
Voilà.
Parfait. Oui, Yannick est avec nous, 32-16, Christian.
Je voudrais poser une question sur les aérosols.
Eh bien, juste après, si vous voulez. Yannick est là, bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Oui, bonjour.
Bienvenue
Yannick, on vous écoute.
Merci. En fait, je suis en train de repeindre l'intérieur de ma maison et il y a un mur où je souhaite faire mettre des posters en mosaïque et les recouvrir d'une protection étanche. Alors, je ne sais pas s'il y a une peinture incolore qui existe, une laque ou un vernis.
Ça s'appelle un vernis?
Ouais. Alors, attendez, si j'ai bien compris, vous voulez poser des posters sur votre mur et les recouvrir de vernis, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, je veux, comme du papier peint au niveau des posters, et recouvrir une couche de vernis. Après, est-ce qu'il y a des vernis qui donnent une tendance sépia ou un vernis incolore, en fait, pour les protéger de l'étanchéité, de l'humidité?
Un vernis incolore en phase aqueuse uniquement, parce que sinon, ça va vous jaunir et vous transformer la couleur de votre poster.
D'accord.
Ça, c'est donc, il faut bien regarder. Nous, on en a dans notre gamme, c'est des pots bleus. Vous l'étalez avec un petit rouleau, comme un petit rouleau laqueur, sans trop le tendre.
De toute façon, vous savez, la différence entre un vernis et une peinture, c'est que c'est la même chose, sauf que dans le vernis, dans la peinture, vous avez une charge, donc avec des pigments, et qui vous donne donc une opacité et une coloration. Mais sinon, peinture et vernis, globalement, c'est la même chose. Après, ce qui change, c'est effectivement le solvant, si c'est de l'eau, c'est les résines, etc.
D'accord. Oui,
voilà. Sophie, vous avez un aérosol que je vois A+.
Hein. Tout à fait.
Bon, alors il y a eu la chasse aux aérosols, à une certaine peinture aérosol. Et là, vous avez maintenant des peintures aérosols en phase aqueuse et qui peuvent se permettre d'être. On voit sur votre aérosol, on voit le petit logo A+. C'est nouveau ça, parce que jusqu'à présent, on faisait encore la chasse aux aérosols.
Alors, on faisait la chasse aux aérosols, tout à fait. Tous nos aérosols sont normalisé avec des sigles, etc. Celui-là, c'est le dernier né, c'est le petit bébé de la maison qui s'appelle Col Air, qui est 100% à l'eau, donc qui n'est pas à plus, qui est zéro. 100% à l'eau, c'est le seul qui existe aujourd'hui sur le marché, qui est pulvérisable à l'intérieur, sans odeur, qui ne nuit pas à l'environnement et qui a le même pouvoir couvrant qu'un aérosol solvanté.
Mais alors ça sert à quoi? On peint quoi avec ce type d'aérosol?
Essentiellement, on peut peindre.
Alors, comme on a la radio, imaginez, c'est une grosse bombe insecticide,
oui, c'est
quoi.
C'est
à peu près ça.
On l'utilise plutôt pour des petits objets, on va dire. On va pas repeindre un mur. Hein.
On va pas repeindre un mur, à moins qu'on ait un panneau qu'on veut faire
des baguettes.
Chose,
mais aussi des équipements. On peut repeindre un frigo, par exemple, avec ça.
Non. On a l'aérosol spécial frigo.
Et là, on
peut repeindre. Je vois bien une maman qui va avoir un bébé, qui a fait de la récup.
Qui veut repeindre son bébé.
Non, va repeindre le lit, la commode, etc. On cherche toujours à faire, à mettre une peinture que l'enfant va pouvoir mordiller sans crainte. Voilà.
Donc on peut repeindre un petit meuble avec ça.
Tout à fait.
Mais il faut bien le préparer quand même. La sous-couche reste nécessaire sur un meuble en bois brut.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, même en bois brut. Moi, quand je le fais en démonstration au magasin, ça marche très bien, ça couvre, ça se tend bien au séchage.
Mais il faut avoir peut-être le bon geste, non ? Comment ça se passe, ce truc-là ? Il faut...
Alors, maintenant, on, a des, on vend des petits pistolets qu'on met sur la buse,
d'accord,
qu'on a fait exprès,
ouais,
qui se mettent dessus et qui vous permet d'avoir un geste très, très,
fluide.
Très, très fluide pour ne pas faire de couleur.
C'est le même principe, de toute façon, que le pistolet.
Le pistolet à peinture. C'est-à-dire, on n'a pas parlé du pistolet à peinture, tiens, Christian.
Non, il faudra en faire une émission spécifique parce que c'est vraiment tout à fait particulier, la peinture pistolet. Mais les deux règles, c'est une bonne distance, c'est les trois règles, c'est la régularité du mouvement et essayer d'avoir de bloquer le poignet pour éviter d'avoir un angle qui ne répartirait pas bien la peinture.
D'accord.
Voilà, ce sont mes conseils.
Parfait. Merci beaucoup, Sophie.
Merci Sophie Bégani, responsable de secteur chez Rustoleum.